Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
Cet automne, on a été des centaines de milliers à regarder le téléviseur au même moment, en regardant la même émission. C'est comme ça que je t'aime, pour voir les aventures du Guette des Lilles et du reste de son organisation. Aujourd'hui, on reçoit Marilyn Castonguay. Salut Marilyn.
Salut.
Guette des Lilles en personne.
Oui. Il sent carabine en moins et gants de vaisselle en moins.
Oui, ben c'est ça. En arrivant, la première chose que j'ai vérifiée, c'était de voir si tu avais tes gants de vaisselle et les textes. Tu les avais pas. Je me suis dit, ouf, quelle émission bizarre.
Bizarre,
en même temps,
mais savoureuse en même temps, non?
En même temps, les personnages sont tellement attachants dans leur désorganisation. La désorganisation de l'organisation, il y a quelque chose qui est inexplicable, puis en même temps, tu dis, c'est seulement que de l'attachement.
Ben oui, parce qu'ils ont tout un combat, ils veulent tout aller plus loin, ils essayent de s'émanciper, d'être ailleurs, de prendre du pouvoir où est-ce qu'ils peuvent le prendre, mais ils n'y arrivent pas du tout, d'où l'effet comique que ça crée. T'sais.
Mais en même temps, je me disais, Marilyn Castonguay, qui reçoit ce scénario-là, comment on fait pour lire un tel scénario? C'est fou, c'est totalement éclaté. Ça se tient entre Tarantino puis Claude Meunier, entre Woody Allen puis David Lynch. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans.
Mais l'écriture de François est très singulière.
Ouais.
Tu sais, il y a vraiment son style à lui unique. Il va dans des zones d'humour qu'on ne voit pas nécessairement habituellement.
Ben, pas à la télé.
C'est ça, il dit des choses très franches. Puis c'est très cinématographique aussi, je trouve.
Oui.
Puis, ben, en fait, au début, c'est que nous, on n'a pas accès à tous les épisodes.
OK.
C'est pour passer mon audition, moi, j'ai eu deux scènes.
Ben, raison de plus pour... Je me pose la question, comment on peut se faire une idée du personnage déjà que tu as accès, à si peu dans tellement de folie?
Mais c'était clair. Puis qui m'a dit ça? Je sais pas pourquoi tu dis que c'était si clair, parce que Huguette, c'est un personnage très complexe. Mais moi, quand je l'ai lu... Premièrement, j'ai trouvé ça très drôle.
Ouais.
C'était relativement clair là, ce qu'elle était,
parce que bien écrit aussi.
Très, très bien écrit. Le niveau d'humour, le niveau de jeu était très clair pour moi aussi. Fait que c'était évident pour moi comment j'allais la jouer, cette Huguette-là. Qu'est-ce que j'allais proposer? Ce qui n'est pas toujours le cas non plus, là, de qui elle est, comment jouer ça. Mais pour moi, c'était clair parce que... Comment je pourrais bien expliquer ça? Parce que sa quête était claire. C'était très bien écrit. Oui. D'où elle voulait aller aussi.
Mais en même temps, Huguette de Lille, on se replace dans l'action. Là. On est au milieu des années 74. On est en banlieue de Québec. Petite vie de banlieue, bien ordinaire. Huguette est enceinte perpétuellement de 6 mois.
Oui.
Bon, puis à un moment donné, elle veut s'affranchir de cette vie-là, ce que l'on devine.
Oui.
Et finalement, elle devient tueuse.
Oui.
Bon, elle se promène avec une carabine, avec des gants plétex, puis elle... à part sélection.
Malgré elle, en fait.
Oui,
aussi,
malgré elle, sauf qu'elle assume très bien le rôle.
Parce que c'est là qu'elle trouve qu'elle est bonne. Elle se fait dire qu'elle est bonne. Mm-hmm. C'est là qu'elle se valorise, fait qu'elle décide de continuer ça, tu sais.
Puis, ce qui est drôle, on connaît l'espèce de gang de François Létourneau, puis de Robitaille là-dedans, tout ça. En regardant les émissions, j'avais l'impression que tu faisais partie de cette entité-là, de ce groupe d'amis. Or... En faisant mes lectures, je me rends compte que...
Pas du tout.
T'étais complètement étrangère.
Ben oui. Puis il était très
intimidant. Cette confrérie-là.
Mais il était très intimidant, en plus. Pas les gars, parce qu'il était quand même super accueillant, bras ouverts. Puis les autres, ils se connaissent depuis tellement longtemps.
Mais intimidant parce que c'est un groupe.
Ben oui, qui se connaissent depuis longtemps. C'est trois... J'ai inclus Jean-François Rivard là-dedans, avec François Létourneau puis Patrice. C'est trois grands gars de 6 pieds quelques. Qui t'arrivent, qui se connaissent, qui sont à l'aise, qui jouent ensemble depuis tellement longtemps. Fait que, tu sais, c'est facile. Moi, j'arrive, 5 pieds 2, 3 quarts. Je connais personne. C'est un super, tu sais, grand rôle qui m'a été offert quand même. Fait que j'étais complètement intimidée. J'étais gênée. Je savais pas trop. Mais, tu sais, ils ont été vite. Ils sont allés vite me chercher. Là. Puis, justement, je suis quand même une fille qui a été élevée avec des garçons.
Ben, c'était là que j'en venais, mais je me disais, Marilyn Castonguay, dans ce groupe-là, parce que Marianne doit être originaire de Québec. Ah, t'es pas originaire de Québec du tout?
Non, je suis originaire de l'île aux Coudres.
Là, tu te dis, OK, donc, elle a dû les connaître à un moment donné. Puis, là, je me rends compte que non, c'est une rencontre.
Oui.
Appelons ça un match instantané.
Un match instantané, oui, quand même. C'était super. Puis, ben c'est ça, ce qui fait que l'énergie de gars, moi, j'ai de la facilité avec ça aussi. Fait que je pense que c'est ça qui a aidé à faire partie de la gang. Puis j'étais une fille de gang aussi, fait que je me greffais quand même facilement à eux. Ils n'ont pas eu le choix de me prendre, non. En fait. Je n'aurais pas donné le choix.
Mais toi, tu lis ce scénario-là et tu te dis « Ah, c'est moi, ça, ça m'appartient. » Est-ce que ça arrive souvent des coups de foudre comme ça? Que tu reçois un texte et tu te dis « Oh, que je me vois bien là-dedans. » Ou que je me vois pas aussi, là.
Ça... Oui, ça arrive.
Oui.
Mais j'avoue que l'alignement parfait est assez rare.
Mm-hmm.
Tu sais, la personne parfaite pour le rôle parfait au moment parfait,
oui.
C'est quand même assez rare. Il y en a qui le vivent jamais. D'autres qui le vivent plusieurs fois. Puis je considère que le rôle du guette, c'est ça. Tu sais, le rôle parfait pour la personne... Ben, la personne parfaite, on s'entend, là, je veux, oui. Pas dire. Mais comme pour mes...
Non, mais tu tombais bien.
Je tombe...
Tu étais sur ton X, il n'y a pas de malaise à toi.
Je pense que j'avais
X.
Ce qu'il fallait pour la jouer.
Oui.
Ce qui fait que ça a été très clair pour moi, ce qu'il fallait que je propose, puis ce qu'il fallait que je joue pour Huguette. Et j'ai été chanceuse qu'on m'appelle pour l'audition aussi, parce que ça aurait pu complètement me passer sous le nez.
Puis la fameuse audition...
Ouais.
Qui était, elle aussi, particulière. Premièrement, tu ne tripes pas vraiment sur les auditions, mais bon.
Vraiment pas, mais c'est un mal nécessaire.
Faut ce qu'il faut.
Ouais.
Mais là, le jour de l'audition, tu ne pouvais pas te présenter.
Oui, j'ai été malade. Je me lève avec une petite gastro.
Malaise passager, c'est ouais. Le cas de le dire. Et là, tu ne peux pas te présenter à l'audition. Donc, finalement, tu envoies une audition par
ouais.
vidéo.
Oui. Mais j'ai adoré ça parce que je pouvais recommencer. Tu sais, je pouvais être vraiment très fière et contente et réfléchir aussi.
Oui.
Puis j'ai pris beaucoup de temps pour faire vraiment la prise parfaite pour moi.
Oui. Ta proposition était claire? Oui,
vraiment. Puis je l'ai refaite jusqu'à temps que je sois vraiment contente puis que j'ai les nuances que je voulais proposer. Puis
mm-hmm.
Tu vois, ça a marché.
Ah oui, la caméra est à toi toute seule. Oui,
c'est ça.
Tu pouvais en faire ce que tu voulais.
Je peux regarder aussi ce qu'en audition, on n'a pas le luxe de faire. Puis aussi, on a un temps accordé qui est des fois pas très long. Puis des fois, il faut réfléchir aussi. T'sais, on arrive avec une proposition. Si c'est pas ça, faut être capable de se revirer sur un dizaine, comme je peux dire. Puis des fois, moi, je suis quelqu'un qui faut qu'il réfléchisse puis qu'il mûrisse les idées. Fait que des fois, tu mûris en même temps que tu essayes de le faire. Puis c'est juste 2 heures après, quand tu es sorti, que tu fais « C'est comme ça qu'il fallait que je le joue. C'est ça qu'il fallait que je propose, mais c'est trop tard. » Fait que là, c'est ça, ça marche pas.
Mais le principe des auditions pour les comédiennes, les comédiens, là, effectivement, il doit y avoir quelque chose de tellement intimidant. Tous les « uns » doivent embarquer là-dedans. Intimidant, injuste, incompréhensible. Ça doit être insupportable.
c'est beaucoup de travail aussi pour des fois rien. C'est ça aussi qui arrive. Mais
fermes la porte puis tu le sais que tu l'auras pas puis ça va pas marcher.
C'est ça. Je comprends pourquoi on fait ça. Je comprends qu'à un moment donné, tu sais pas trop puis t'attends d'avoir une rencontre. T'attends mm-hmm. de voir ton personnage à travers quelqu'un d'autre. Puis je comprends que des fois, t'as une idée puis t'invites la personne puis ah, finalement, c'est pas ça. Ou quelqu'un arrive puis te surprend. Fait que je comprends le processus. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, une agente de casting, qui m'avait dit « Mais pour toi aussi, c'est une rencontre. » Tu sais, t'es pas à la merci de...
OK, l'autre manière de l'aborder.
De voir les choses. Tu sais, pour toi aussi, si tu connais pas ce réalisateur-là ou ce metteur en scène-là...
C'est ton moment d'observation.
C'est ça. Tu sais, c'est pas obligé de te plaire puis de faire ton affaire non plus. Mais tu sais, des fois, t'es comme « Ben, je suis qui, moi, pour... » me mettre dans la situation où je fais passer une audition moi-même
mais
à
là,
quelqu'un d'autre.
Mais t'sais. Là, depuis le temps qu'on te voit, moi, le premier souvenir que j'ai de toi, c'est le film L'Affaire du Monde.
Oui.
Bon, c'était à peu près dans les premières...
Oui, il y a eu Vertige, puis il y a eu L'Affaire du Monde tout de suite après.
C'est ça, puis c'est très peu de temps après la sortie de l'École nationale, ça.
C'est un an après, oui.
C'est parti vite.
C'est parti très vite.
Et depuis ce temps-là, ce qui est particulier, quand on regarde l'ensemble de ton œuvre, c'est que ça va effectivement partout. Ça va du théâtre, puis on va revenir sur un spectacle en particulier. Là, ça va du théâtre qui peut être très aride à des séries complètement déjantées, comme celle dont on parlait mm-hmm. tantôt, C'est comme ça que je t'aime. Mais aussi la télé pour enfants,
oui.
Qui elle aussi est déjantée, mais dans un autre genre.
Oui. Que j'adore faire du jazz.
Je pense à Salmi Gondi, par exemple.
Oui, Salmi Gondi, j'ai fait Alix et les Merveilleux. Bien, que je fais présentement encore, Alix et les Merveilleux, puis 1, 2, 3 géants au début aussi, là, dans la première année.
Mais Salmi Gondi, moi, c'est l'émission que je
regarde. Oui! Tu regardais Salmi Gondi?
Oui, non, ben c'est parce que je dors à des heures un petit peu particulières,
okay.
Donc je tombais là-dessus. Ton personnage du robot qui, à cause du robot comme tel, ta gestuelle, mais aussi ton phrasé, tout ça, là, tu dis...
La thème de voix, il y en a qui pensaient que ma voix était truquée.
Ben, Marilyn Castonguay, dis-moi pas que ta voix était pas truquée.
Ma voix était pas truquée.
Ben oui, on a.
Mais bien sûr que non, ma voix n'était pas truquée. Hein?
C'est ma voix à moi. C'est exigeant, ouais, de faire ça toute la journée.
Ben ça doit. Ouais. C'est la réflexion que je me. Parce que j'étais convaincu que s'il y avait. Que la voix était traitée. Ben, pour une raison bien simple, c'est que je me disais, c'est pas faisable garder une voix comme ça.
Mais tu sais, j'ai proposé ça en audition, puis après ça, j'ai pas eu le choix de la garder. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Attends,
ça arrive des fois qu'on regrette des choix comme ça ou des propositions.
Ouais, comme celle-là, là. Mais ça marchait super bien, tu sais.
Ouais.
Fait que, mais c'était exigeant, mais en même temps, moi, j'aime ça quand c'est exigeant, puis me mettre dans des situations qu'il faut que ça aille au-delà du.
Mais des émissions pour enfants, c'est complètement flayé.
Ben oui, c'est comme du théâtre à la télé, tu sais. Puis c'est très exigeant faire ça parce que ça demande un niveau d'énergie qui est constant, puis quand même très élevé.
Mm-hmm.
Puis c'est des journées de 12 scènes par jour parce qu'on fait un épisode par jour quand même.
Parce qu'on a tendance à banaliser ça parce que ça s'adresse aux enfants. Ça, c'est comme la littérature pour enfants. On dit, oh, je vais en écrire des livres pour enfants. Ah oui.
Ben oui, c'est ça.
Attelle-toi.
C'est pas enfants, simple.
La télé pour enfants aussi, au niveau de l'écriture, au niveau du jeu, c'est très exigeant. Il y a quelque chose là-dedans. Sauf que nous les enfants. Non, mais on regarde ça, on reçoit ça, puis il y a comme quelque chose de naturel dans tout ça.
Ben oui, puis tu sais, il faut quand même qu'il y ait un niveau d'intelligence puis de logique pour des enfants. Puis moi, je trouve que si on banalise puis si on rejette de la main... Les émissions ou les livres jeunesse, c'est comme un peu rejeter nos propres enfants.
Oui.
C'est qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut qu'ils regardent.
C'est une grave erreur de croire que des enfants bouffent de n'importe quoi.
Oui, moi je pense que oui.
Oui.
Puis c'est une grave erreur de leur donner n'importe quoi aussi si on banalise puis on fait la job à moitié parce que c'est pour les enfants. T'sais.
Toi, étant enfant, est-ce que tu consommais ce genre d'émissions-là? Est-ce que tu étais une accro?
Ben oui, mais moi j'aimais Inimini Majimo.
Ah oui?
Je sais pas si vous vous souvenez des mini-mini.
Ben, ça, c'est le bout que j'ai sauté.
Oui. Mais moi, j'aimais beaucoup les émissions jeunesse, mais ça en particulier, puis c'était très théâtral aussi.
Ouais.
On nous racontait des histoires, puis ils faisaient les décors eux-mêmes. Fait que ça, j'aimais beaucoup cette émission-là.
Quand on sort de l'École nationale,
ouais.
On doit se faire des idées. Moi, je veux faire ça, ou je m'attends à faire ceci, faire cela. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre. La Marilyn Castonguay et ses espoirs en sortant de l'école et ce que tu as fini par vivre par la suite?
Ben, je ne m'attendais pas à vivre tout ça, premièrement.
Ah oui?
Ben, je me considère vraiment
bénie. La carrière est généreuse pour toi?
La carrière et la vie est très généreuse.
Oui.
Oui, elles sont très généreuses, pardon. Mais c'est parce que quand tu commences là-dedans, tu ne sais pas si tu vas être l'élu, tu sais, il y en a tellement aussi qui ont du talent puis qui travaillent fort, qui arrivent pas à vivre de ça ou qui finissent par tout simplement quitter le métier, tu sais.
Oui.
Fait que je suis sortie un peu, je pensais faire du théâtre parce qu'on étudie quand même là-dedans, puis j'adore le théâtre. Mais je pensais pas c'est sûr que j'avais ces rêves-là d'atteindre le cinéma, d'atteindre la télé.
Oui, on peut pas les avoir, ces rêves-là. Ben, si on les a pas, on n'est pas là.
Ben, c'est ça, tu sais, mais...
Mais à l'École nationale, est-ce que tu réussissais bien? Est-ce que tu faisais partie du groupe de l'élite? Parce que souvent, les gens qui finissent les premiers à l'École nationale sont ceux et celles que nous, on ne revoit pas nécessairement par la suite.
Oui. Ben, moi, je me suis promenée. La première année, j'ai trouvé très difficile.
Qu'est-ce que t'aimais pas? Qu'est-ce qui était difficile?
Ben, en fait, c'est que c'est tellement de temps... cloîtrée avec les mêmes personnes. Puis moi, j'étais une fille qui est proche de ses amis, qui est proche de sa famille. Fait que, puis qui se questionne beaucoup, en fait. Puis je considère pas que, ben, tu sais, de plus en plus, puis dans la vie, on va toujours être de plus en plus cultivé aussi. Puis je trouve que mon métier me donne une très, très grande culture, puis m'amène à me poser des questions, m'amène à m'intéresser à plein de sujets que j'aurais pas nécessairement eu l'instinct ou l'envie d'aller voir, tu sais.
Oui.
Fait que je me considérais pas comme quelqu'un de très cultivé, qui connaissait beaucoup de choses nécessairement. Puis là, j'arrivais dans un milieu où tu côtoies plein d'égos. Tu côtoies...
C'est le bal des égos.
Le bal des égos, du monde très talentueux, qui pense des choses différentes de toi. On a tous des vécus différents. Puis je me sentais tellement petite, tellement loin de mon monde, tellement loin des gens qui me groundait, si je peux dire, tu sais, qui m'ancrait dans la vie de ce que je connaissais, tu sais. Puis, fait que j'ai trouvé ça très difficile parce que là, c'est comme si ce que ma vérité à moi était fausse, finalement.
Oui.
Je sais pas si c'est clair, mais c'est comme si ce que je pensais être correct ou
T'as été surprise par tout ça?
Ben oui, puis j'étais comme, si moi, je pense que ça, c'est vrai, mais que ça peut être faux. Fait que dans le fond, ce qui est vrai n'est pas nécessairement faux. Tu sais, je suis devenue comme dans des questionnements existentiels de vérité, là. Puis que j'ai trouvé ça très difficile.
Oui, tu as fait plusieurs choses différentes, comme je te disais, mais ça part dans quelque part, c'est-à-dire qu'on t'a demandé pour plusieurs projets différents aussi.
Mais on m'essaie dans le sens qu'on m'appelle pour des auditions, des rôles tellement différents, là. Fait que je suis chanceuse qu'on m'essaye pour plein de choses différentes.
Oui, et tu as aussi un aspect très, très juvénile.
Mm-hmm.
Tu peux avoir l'air très jeune ou t'es un peu sans âge, mais tu peux facilement avoir l'air très jeune. C'était quoi? C'était à la télé avec Gabriel Arcand, là.
Au Secours de Béatrice.
Béatrice, où là-dedans, tu jouais quelqu'un qui était...
Oui, début vingtaine, là,
début vingtaine,
à peu près.
Ouais, c'était très crédible. Tu regardes ça, tu dis, ben oui, c'est normal. Mais qui est donc cette jeune?
Cette jeune qui sort de l'école.
Ben oui, c'est ça.
Ou même pas d'école.
Mais la jeunesse qui se prolonge comme ça dans ton cas, ça peut aussi être une lame à deux tranchants. Parce qu'à un moment donné, on pourrait ne pas t'appeler pour des rôles d'adultes assumés.
Oui, mais on m'appelle, c'est ça qui est super. Puis, mais en même temps aussi, il y a cette espèce de... Tu sais, à un moment donné, avec l'âge, tu as peut-être l'air jeune, mais quand tu joues, quand tu te mets à jouer quelque chose, ben veux pas, l'âge, la maturité te rattrape dans l'énergie, dans l'assise que tu as en jouant. Fait que je pense que ça m'aide à aller chercher de mon âge ou peut-être un petit peu plus vieux, tu sais, à jouer des rôles plus matures.
Tantôt. Excuse.
Non, c'est ça. Puis je dis peut-être que ça va commencer à tasser les rôles peut-être un petit peu plus jeunes, là, même si j'ai l'air jeune, tu sais.
Ben, forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle la réalité qui s'installe.
C'est ça.
J'ai évoqué tantôt une pièce de théâtre que j'ai vue en tout début d'année, Les filles et les garçons. C'est un spectacle en solo. Tu faisais ça à la Licorne, seul en scène pendant près de 2 heures.
Oui, 1h50.
Seul en scène.
Oui.
Pour une fille qui se dit fille de gang et d'amis, c'est se lancer sans filet. Est-ce que cette proposition-là, elle arrive comment?
Denis Bernard m'appelle à un moment donné, de nulle part. Puis il me laisse un message sur mon répondeur qu'il est en train de travailler sur un projet de théâtre, qu'il est en train de faire l'adaptation, la traduction, en fait, parce que c'est une pièce de Denis Kelly qui est britannique. Et qui a pensé à moi en lisant pour l'interpréter. Fait que sur le coup, je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi il m'appelle? Tu sais, un solo, je vais devoir comme répondre à ça. Parce que ça me terrorisait.
Mais on peut pas dire non.
Ça dépend du texte, parce qu'à un moment donné, c'est énormément de travail, puis c'est énormément de don de soi, un solo.
Juste pour se donner une idée, c'est combien de pages de texte?
63.
Ça, c'est prendre 63 pages de livre puis retenir ça par cœur.
Oui.
Et y ajouter les intentions, l'intonation, le jeu avec tout ça.
Oui, puis être capable de sauver...
C'est colossal.
Oui. Et puis, pour, je sais pas, pour tous ceux qui le font aussi, tu sais, parce qu'il y en a quand même pas mal qui font des solos, tu sais, qui se lancent dans ce défi-là, là.
Mais cette pièce-là en particulier, c'est une pièce qui, comme d'ailleurs, si on ne lit pas la prémisse de cette pièce-là, qu'on se lance, je me suis lancé dans cette pièce-là en ne connaissant rien du propos.
Ça, c'est super, on devrait faire ça plus souvent.
Oui, mais une fois de temps en temps, je l'ai fait et je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Donc, j'étais accompagné.
Ah oui, c'est ça,
Oui, c'est ça, ça part dans une certaine légèreté, puis à un moment donné, tu dis, mon Dieu, que je me sens mal. Puis là, à un moment donné, ça bascule. Sauf que tu es la seule à pouvoir fixer le rythme là-dedans.
Oui.
On est sorti de là, on s'est dit, Marilyn Castonguay, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a bouffé? Qu'est-ce qu'elle a bu pour pouvoir en arriver à ça? C'est un spectacle vraiment impressionnant.
Ben, je suis très contente parce que c'est ça. Fallait pas que ça. C'est pas banal.
Non.
Comme pièce, c'est pas banal la façon dont c'est présenté aussi. Puis je suis contente que ça ait cet effet-là sur les gens.
Puis. Peut-être que les gens vont dire, oui, mais c'est quoi l'histoire de la pièce? C'est que je peux pas vraiment raconter l'histoire de la pièce parce que j'espère de tout cœur qu'elle sera reprise.
On espère aussi parce que tout a été comme un peu bousculé à cause de ce qu'on vit présentement.
Puis je me dis, tout ce travail-là mérite une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième incarnation s'il faut. Mais disons que, sans donner le punch de la pièce, disons que c'est très dans l'air du temps.
c'est très dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps d'avance. Je pense que ça va continuer à être dans l'air du temps qui va venir dans le futur, qui mm-hmm. va venir. Je pense que c'est des situations qu'on vit. C'est de l'humanité.
Ouais.
Donc, tant qu'il va y avoir des humains, il va y avoir de l'humanité, il va y avoir de...
Et c'est travers.
Et c'est travers, c'est bien dit.
Oui. Mais quand je reviens encore sur la masse de textes puis le travail que ça demande, quand je disais tantôt, on peut pas dire non à un projet comme ça, c'est parce que c'est quand même une belle marque de confiance. On me dit, oh, on m'apprécie, on m'offre.
Ben oui, absolument.
Bon. Sauf qu'en même temps, on dit oui, puis là, on ferme la ligne, puis qu'est-ce qu'on fait?
Ben, ça, j'ai pris du temps avant de répondre. Parce okay. que j'ai pris ce texte-là, et après ça, j'ai lu. Ça m'a beaucoup plu. Le ton aussi. Tu sais, c'est une fille qui a de la, qui a du oui. rock'n'roll, là, qui a de la torque, si je peux dire, puis qui mâche pas ses mots. Et ce qu'elle vit est pas banal. Et ben ce qu'elle vit est très touchant.
Au début, elle est vraiment divertissante. Là.
Ouais, oui, c'est ça. Fait que ça, j'étais comme, j'avais envie de jouer une femme comme ça, premièrement. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu t'accroches à plein de choses. T'sais. Fait que la personne, la fille, le caractère de cette fille-là me plaisait. Et je dis, bon, ça, je suis capable, je pense, d'aller là, puis de jouer ça. Puis j'ai envie de jouer ça. Après ça, qu'est-ce qu'elle dit? Le propos, ça me touche profondément. Il faut falloir que je porte ça tous les soirs, que j'amène, que j'arrive à ça. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les reins assez solides? Ça m'a pris une semaine. Puis après ça, j'ai fait, si j'ai un solo à faire dans ma vie, ça va être lui. Fait que je l'ai fait.
Je regardais l'autre fois un documentaire suite au décès de Jacques Godin où il parlait de son personnage dans le spectacle La charge de l'orignal épormillable. Personnage qui souffrait énormément. Et à un moment donné, Jacques Godin, le comédien, a déclaré forfait. Il voulait plus. Il s'est arrangé pour finir le cycle, là, mais il ne voulait plus jamais jouer ce personnage-là parce que c'était trop exigeant, parce que ça faisait trop mal.
Mm-hmm.
Et quand je pense à ta pièce de théâtre, Les filles et les garçons, je me disais, à un moment donné, une femme peut avoir trop mal en sortant de cette pièce-là.
Oui, oui, oui.
Puis on ne rentre pas chez nous en sifflotant, là.
Pas du tout. Puis il y a des amis ou même des gens que je savais qui étaient dans la salle. Puis que j'arrive après, tu sais, dans le hall, puis qu'en fait, on n'a pas pu rester. Ils m'ont envoyé des mots après, parce que dans le hall, il n'y avait personne.
Ouais.
On n'a pas pu rester, on pouvait pas te parler. Il fallait qu'on ait cuvé ça chez nous. Puis c'est la première fois, en fait, que j'avais, je vais dire ça comme ça, mais tu sais, un chiffre avant, en sur scène, et un chiffre de travail après. C'est un quart de travail après.
OK.
Parce que...
Pour se refaire.
Ben, j'ai jamais autant eu besoin de parler... T'sais, les gens avaient besoin d'en parler. Les gens avaient besoin de démystifier ça, de comprendre comment cette femme-là a pu arriver à cet esprit tranquille-là, malgré ce qu'elle a vécu. Puis, fait que j'étais des heures après à parler avec les gens, t'sais, à les écouter, à échanger sur le sujet. Puis ça, c'était quand même aussi exigeant.
Oui, être accompagnée par son œuvre jusqu'au bout.
Oui.
Ce matin, on reçoit Marilyn Castonguay. On jase comme ça, on jase de télé, on jase de théâtre. Télé pour enfants, télé complètement disjonctée. On parle de tout ça. Et au retour de la pause, on va continuer dans la même lancée entre nous.